Section 2, une école pour l'étude de la Bible. Sondez les Écritures. Aucun homme, aucune femme, aucun jeune ne peut atteindre la perfection chrétienne tout en négligeant l'étude de la parole de Dieu. En sondant attentivement et minutieusement sa parole, nous obéirons à l'injonction du Christ, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Cette étude rend l'étudiant capable d'observer de près le divin modèle, car les Écritures témoignent de Christ. Il faut contempler le modèle attentivement pour arriver à l'imiter. En apprenant à connaître la vie du Rédempteur, l'étudiant découvre en lui-même des défauts de caractère. Il se voit tellement différent de Christ qu'il réalise qu'il ne peut être son disciple à moins qu'un grand changement ne s'opère dans sa vie. Mais il continue d'étudier, animé du désir de ressembler à son grand exemple. Il saisit la beauté, l'esprit de son bien-aimé maître. En contemplant, il est transformé. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. La parole de Dieu, s'adressant au cœur, possède une puissance vivifiante, et ceux qui élaboreront toutes sortes d'excuses pour négliger d'en acquérir une meilleure connaissance négligeront aussi les demandes de Dieu à bien des égards. Le caractère sera déformé, les paroles et les actes seront une honte pour la vérité. L'apôtre nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et propre à toute bonne œuvre. » L'un des prophètes de Dieu s'est exclamé, « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. » Si les chrétiens sondaient les Écritures avec sincérité, plus de cœurs seraient enflammés par les vérités saisissantes qui y sont révélées. Leurs espoirs seraient illuminés par les précieuses promesses répandues comme des perles à travers tous les écrits sacrés. En contemplant l'histoire des patriarches et des prophètes, des hommes qui ont aimé et craint Dieu, et marché avec lui, les cœurs rayonneront de l'esprit qui animait ces braves hommes. Alors que la pensée s'attarde sur la vertu et la piété des saints hommes d'autrefois, l'esprit qui les a inspirés allumera une flamme d'amour et de sainte ferveur dans les cœurs de ceux dont le caractère leur semblera. Ne pas négliger la leçon de l'école du sabbat. L'étudiant de l'école du sabbat devrait éprouver le désir de développer son intelligence et sa connaissance des Écritures tout aussi sérieusement que d'exceller dans l'étude des sciences. S'il fallait négliger les unes ou les autres, ce devrait être les leçons des 6 jours de la semaine. L'injonction de notre Sauveur devrait être religieusement considérée par tout homme, toute femme et tout enfant qui se réclame de son nom. Les moniteurs de l'école du sabbat ont reçu un champ missionnaire où ils doivent enseigner les Écritures, non à la manière d'un perroquet, en répétant simplement des choses qu'ils ne se sont pas efforcés de comprendre. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, du Sauveur, celui en qui reposent nos espoirs de vie éternelle. Si les moniteurs ne sont pas imprégnés de l'esprit de vérité, et ne se soucient pas de connaître ce qui est révélé dans la parole de Dieu, comment peuvent-ils présenter la vérité sous un jour attrayant à ceux qui leur sont confiés? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Telle était la prière du Christ pour ses disciples. Si nous devons être sanctifiés par la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, nous devons avoir une connaissance éclairée de sa volonté qui y est révélée. Nous devons sonder les Écritures, pas simplement lire un chapitre à la hâte et le répéter sans se donner la peine de le comprendre, mais nous devons creuser pour découvrir le joyau de vérité qui enrichira l'esprit et fortifiera l'âme contre les ruses et les tentations du trompeur par excellence. Des excuses insignifiantes pour notre négligence. Les parents invoquent des excuses insignifiantes pour leur manque d'intérêt dans l'étude des leçons avec leurs enfants, et ils perdent une bonne occasion de se familiariser avec les Écritures. Père et mère s'excusent de ne pas éduquer leurs propres esprits. Ils ne cherchent pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais exaltent les choses temporelles au-dessus des choses spirituelles et éternelles. Cette négligence envers Dieu et sa parole est l'exemple qu'ils donnent à leurs enfants, lequel façonne leurs esprits selon les principes du monde et non selon le principe élevé établi par le Christ. Certains pères de famille passent des heures à se distraire, à converser à propos de choses mondaines, et chassent Dieu de leurs pensées et de leur cœur. Comme il leur serait plus profitable d'agir en fidèles disciples du Christ, appliqués à sonder les Écritures afin d'être prêts à toute bonne œuvre, et être en mesure d'offrir une explication pertinente de la parole donnée par Dieu pour guider nos pas vers les rives éternelles. On entend dire que les mères se plaignent de manquer de temps pour enseigner leurs enfants, les instruire dans la parole de Dieu. Mais ces mêmes mères trouvent le temps de s'occuper de parures extérieures, d'ornements de toutes sortes, de volants et de broderies inutiles. On voit sur leurs propres vêtements, et sur ceux de leurs enfants des parures superflues. La parure intérieure de l'esprit et la culture de l'âme sont négligées comme si elles étaient inférieures à la parure extérieure. Les esprits des mères et des enfants sont affamés, et ils finissent par suivre la mode et les coutumes du monde. Toute la famille unie dans l'étude de la Bible. Père et mère, nous vous supplions de reprendre vos devoirs trop longtemps négligés. Sondez vous-même les Écritures. Aidez vos enfants dans l'étude de la parole sacrée. À cause de votre négligence passée, faites un travail assidu. Ne laissez pas vos enfants seuls à lire la Bible, mais lisez-la avec eux, enseignez-leur de manière simple ce que vous savez, et vous-même, mettez-vous à l'école de Christ comme de fervents étudiants. Soyez déterminés à ne pas négliger cette tâche. Mère, habillez-vous, ainsi que vos enfants, de façon modeste, propre et soignée mais sans ornement inutile. Quand vous aurez appris à faire ceci, à vous vêtir avec une simplicité consciencieuse, alors vous n'aurez aucune excuse d'être novice dans les Écritures. Suivez le commandement du Christ, sondez les Écritures, et vous acquérez alors vous-même des forces spirituelles et serez capable d'instruire vos enfants de manière à ce qu'ils n'aient plus à se présenter à l'école du sabbat sans connaître la leçon. Plusieurs jeunes disent, « Je n'ai pas le temps d'étudier ma leçon. » Mais que font-ils ? Certains compressent leur emploi du temps pour gagner quelques dollars de plus, alors que si ce temps utilisé au travail était consacré à l'étude de la Bible et à l'application de ses leçons, il en résulterait un gain plus considérable que celui obtenu par ce surmenage. Cela leur épargnerait tout ce qui est dépensé en parure inutile, et préserverait leur vivacité d'esprit pour comprendre le mystère de la sainteté. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais ces mêmes jeunes qui professent être chrétiens satisfont les désirs de leur cœur charnel en suivant leurs propres inclinations. Et le temps de probation que Dieu leur accorde pour se familiariser avec les précieuses vérités de la Bible est consacré à la lecture de fables imaginaires. Cette habitude, une fois formée, est difficile à vaincre. Mais c'est possible, et tous ceux qui sont candidats pour le monde céleste doivent y arriver. L'esprit de celui qui est absorbé dans la lecture de ce genre d'histoire est perdu. L'imagination devient malade, le sentimentalisme prend possession de l'esprit et s'installe une confusion, un appétit étrange pour une nourriture mentale malsaine qui ne cesse de déséquilibrer l'esprit. Il se compte par milliers aujourd'hui ceux qui se retrouvent dans des asiles d'aliénés parce que leurs esprits ont été déséquilibrés par la lecture de romans qui les ont entraînés à se construire des châteaux de sable et à sombrer dans un sentimentalisme malade d'amour. La Bible est le livre des livres. Elle vous apportera la vie et la santé. C'est un tranquillisant pour les nerfs et elle communique une fermeté d'esprit et des principes solides. Creuser en profondeur pour les perles de la vérité. L'élève de l'école du sabbat devrait être zélé, il devrait creuser profondément pour trouver les précieuses perles de la vérité contenues dans les leçons hebdomadaires. Les privilèges et les occasions qu'il a maintenant d'étudier les Écritures ne devraient pas être négligés. Dieu veut que ceux qui prétendent être les disciples du Seigneur soient munis de toutes les preuves désirables au sujet des Écritures. Où cela peut-il être mieux obtenu par nos jeunes qu'à l'école du sabbat? En aucun cas, les parents ne devraient traiter cette question à la légère, témoignage pour l'Église, vol. 2, page 652. Comparer les Écritures avec les Écritures. Sondez les Écritures. Voilà l'ordre du Maître. Plusieurs, ayant négligé ce devoir, ont beaucoup perdu. Lorsque nous sondons la parole de Dieu, Les anges sont à nos côtés, illuminant les pages sacrées de rayons de lumière. Les Écritures invitent l'homme à exercer sa liberté de choix entre le bien et le mal. Elles lui parlent en termes d'avertissement, de reproche, de supplication, d'encouragement. L'esprit doit être exercé dans les vérités solennelles de la parole de Dieu, ou il s'affaiblira. La vérité est présentée dans nos publications, mais il n'est pas suffisant de faire confiance aux réflexions d'autres hommes. Nous devons faire nos propres recherches et apprendre les raisons de notre foi en comparant les Écritures avec les Écritures. Prenez la Bible et plaidez avec Dieu à genoux d'éclairer votre esprit. Si l'on prenait la peine d'étudier la Bible assidûment et dans un esprit de prière chaque jour, de merveilleuses vérités se révéleraient à nous sous une lumière nouvelle, claire et puissante. Review and Herald, 4 mars 1884. Écrite pour les gens du peuple. Chaque enfant de Dieu devrait connaître les Écritures et pouvoir, en suivant l'accomplissement de la prophétie, expliquer notre position face à l'histoire de ce monde. La Bible fut écrite pour les gens du peuple aussi bien que pour les érudits, et tous peuvent la comprendre. Les grandes vérités qui constituent le fondement du devoir de l'homme envers son prochain et son Créateur y sont clairement révélées. Et ceux qui cherchent vraiment la vérité ne peuvent se tromper. Nous ne sommes pas laissés dans l'incertitude quant à la voie à suivre, comme si nous nous tenions à une croisée des chemins ne sachant quelle direction prendre. La vérité est notre guide. Elle constitue notre colonne de nuée pendant le jour et notre colonne de feu pendant la nuit. Les nombreuses opinions contradictoires concernant les enseignements de la Bible ne relèvent pas de points obscurs dans le livre lui-même, mais de l'aveuglement et des préjugés de la part des interprètes. Les hommes ignorent les déclarations claires de la Bible pour suivre leurs propres raisons perverties. Se vantant de leur connaissance intellectuelle, ils ne tiennent pas compte de la simplicité de la vérité. Ils abandonnent la fontaine d'eau vive pour boire à la source empoisonnée de l'erreur. Review and Herald, 27 janvier 1885. Remplacer la fiction par la Bible. Les jeunes tout comme les plus âgés négligeant la Bible. Ils n'en font pas leur étude, leur règle de vie. Les jeunes sont spécialement coupables de cette négligence. La plupart d'entre eux trouvent le temps de lire d'autres livres, mais celui qui indique le chemin de la vie éternelle ne constitue pas leur étude de chaque jour. Ils s'intéressent à des histoires futiles alors qu'ils négligent la Bible. Ce livre est notre guide vers une vie plus noble, plus sainte. Les jeunes l'apprécieraient comme le meilleur livre qu'ils ont jamais lu, Counsel to Teachers, Parents, and Students, CT, 139. L'esprit de recherche est essentiel. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nombreuses sont encore les précieuses vérités à dévoiler au monde en ces temps de péril et de ténèbres, mais le dessein arrêté de Satan est d'empêcher la lumière de briller dans le cœur des hommes. Si nous voulons la posséder, ne nous est-elle pas destinée? Notre désir de l'obtenir en sondant avec diligence la parole de Dieu doit être évident. Ces vérités, demeurées longtemps obscures, seront révélées avec un éclat qui rendra manifeste leur valeur sacrée. Car Dieu glorifiera sa parole et la fera paraître sous un jour qu'il ne nous a pas encore été donné de connaître. Mais ceux qui professent aimer la vérité doivent imposer à leur faculté un développement maximum afin de comprendre la profondeur des saintes Écritures pour que Dieu puisse être glorifié et que sa bénédiction et sa lumière reposent sur son peuple. C'est avec un cœur rempli d'humilité et subjugué par la grâce que vous devez vous mettre à sonder les Écritures, prêt à accepter chaque rayon de lumière divine et à marcher dans la sainteté. Dans l'attitude de celui qui apprend. Le but de ce travail ne sera pas de chercher à interpréter les déclarations des Écritures en vue de les harmoniser avec vos idées préconçues, mais bien plutôt de les utiliser pour mieux comprendre les principes fondamentaux de la foi en Christ. Approchez-vous de la parole de Dieu avec un désir sincère d'apprendre ce qu'est la vérité, un réel intérêt, de ferventes supplications, et animé de l'esprit que possédait Nathanaël, quand il demanda au Seigneur de la lui révéler. Et comme pour Nathanaël, Dieu est disposé à accorder sa lumière à chaque âme qui cherche. Jésus vit Nathanaël prosterné en prière sous le figuier où il était encore lorsque le messager vint l'appeler pour le conduire à celui qui est la lumière. Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Le préjugé et l'incrédulité surgirent dans le cœur de cet homme, mais Philippe n'essaya pas de les combattre. Il lui dit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Avec quelle facilité Nathanaël ne fut-il pas convaincu? Et quel plaisir éprouva le Sauveur en contemplant sa foi sincère et authentique? Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Dieu n'honore jamais l'incrédulité, la défiance et le doute. Quand l'Éternel parle, sa parole doit être reconnue et mise en pratique dans la vie de chaque jour. Si le cœur de l'homme est en communion vivante avec Dieu, il reconnaîtra la voix qui vient d'en haut. Évitez les discussions. Autant il nous est nécessaire d'examiner très scrupuleusement la parole de Dieu en vue d'y découvrir et de mettre en lumière de précieuses vérités, autant devons-nous veiller à ce que l'esprit de controverse ne domine pas nos discussions dans les classes de l'école du sabbat. En exposant différentes opinions, ceux qui cherchent à comprendre les saintes écritures devraient manifester la grâce chrétienne. Le libre examen doit être de règle afin de permettre à chacun de découvrir et d'approfondir la vérité. On devrait favoriser un esprit de recherche pour que ceux qui sont assez âgés pour discerner les preuves soient encouragés à sonder de nouveaux aspects de la vérité, en même temps que d'autres motifs d'apprécier les dons que Dieu fait à son peuple. La lumière que le Père désire dispenser à ses enfants ne sera discernée qu'au prix d'une étude diligente de la parole de vérité. Le monde est rempli de toutes sortes d'erreurs spécieuses. Il apparaît donc essentiel qu'élèves et moniteurs sachent ce qu'est cette vérité. La révérer et reconnaître la voix divine dans ses oracles vivants, tel est notre devoir sacré si nous voulons mettre en pratique les préceptes divins et vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ceux qui font la volonté du Père sauront si une doctrine est de lui car aucune séduction n'obscurcira leur esprit. Dieu appelle chacun, quel que soit son âge, à sonder diligemment la parole afin d'y découvrir les précieux joyaux de la vérité. Aux prédicateurs comme aux auditeurs, aux moniteurs comme aux élèves, à tous et à chacun, l'invitation est faite d'étudier la Bible. De précieuses lumières émaneront encore des saintes Écritures, et il n'appartient à personne d'énoncer ce qui, dans les messages que Dieu se réserve de faire connaître, ne doit pas y figurer. Ce serait éteindre l'esprit. Personne n'a le droit, quelle que soit l'autorité que lui confère ses fonctions, d'interdire l'accès à la lumière. Quand le Seigneur envoie un message à son peuple, nul ne peut se soustraire à l'obligation d'en examiner le contenu, ni se permettre de rester à l'écart ou d'adopter une attitude indifférente et présomptueuse en disant « Je connais la vérité. Je suis satisfait de mes conclusions. Ma décision est prise, et quoi qu'il advienne, je ne changerai pas d'opinion. Je n'ai pas à écouter ce que dit ce messager car je sais que cela ne peut être la vérité. C'est parce qu'elles agissent ainsi que les églises populaires ont été abandonnées à des ténèbres partielles et que les messages de Dieu ne leur sont pas parvenus. Cultiver un esprit docile. Dieu invite ceux qui occupent des postes de responsabilité dans l'école du sabbat à délaisser tout égocentrisme, vanité personnelle ou orgueil intellectuel. Si un message que vous ne comprenez pas vous parvient, prenez la peine d'en écouter les explications données par le messager. Comparez ensuite ce texte à ceux de l'Écriture puis jugez s'il est en conformité ou non avec elle. Si vous estimez que la position prise n'a pas de fondement scripturaire et que vos conclusions sur ce sujet ne peuvent être mises en doute, produisez alors vos preuves. Car votre conviction ne risque pas d'être ébranlée au contact de l'erreur. Il n'y a ni vertu ni dignité à poursuivre une lutte dans l'obscurité, à fermer les yeux de peur de voir clair, à se boucher les oreilles pour ne pas entendre, à endurcir son cœur dans l'ignorance et l'incrédulité par crainte d'avoir à s'humilier en reconnaissant avoir été éclairé sur certains points de vérité. Ce n'est pas en vous abstenant d'examiner cette dernière que vous obéirez à l'injonction du Sauveur de sonder les Écritures. Est-ce chercher des trésors cachés que d'appeler fatras le résultat du travail d'autrui, de ne pas en faire l'examen critique pour voir si les pensées que vous condamnez recèlent ou non de précieux joyaux de vérité? Verra-t-on ceux qui ont presque tout à apprendre s'abstenir de réunions où l'on examine des messages, simplement pour ne pas avoir à constater que, éventuellement, les opinions exprimées seront en désaccord avec ce qu'ils estiment être la vérité? C'est ainsi qu'agissaient les Juifs au jour du Christ, parce qu'ils possédaient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Nous sommes invités à ne pas faire comme eux, c'est-à-dire, finir par choisir les ténèbres au lieu de la lumière. Aucun de ceux qui croient tout savoir ne doit mettre sur le compte de l'âge ou de l'intelligence le refus de se laisser enseigner par le plus humble des messagers du Dieu vivant, Sabbath School Worker 6266, juin 1892. Le moniteur doit être disposé à apprendre. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ceux qui veulent devenir les éducateurs de la jeunesse doivent, s'ils tiennent au succès, apprendre beaucoup, tant par le précepte que par l'expérience, de leur Seigneur et Sauveur, et parvenir à la mesure de sa stature parfaite. Cette croissance rend témoignage du fait que l'on est attaché au Christ comme le sarment l'est au cep. Demeurer en lui, signifie posséder la puissance nécessaire au discernement des vérités spirituelles puisque c'est spirituellement qu'on en juge. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Dieu invite les jeunes gens et les jeunes filles à tirer le meilleur parti possible des capacités qui leur sont confiées et il désire que, pour le développement de celles-ci, des habitudes de travail et d'études soient cultivées. Dieu acceptera leur service et les talents ainsi mis en valeur, mais il ne peut approuver un travail médiocre accompli d'un cœur partagé. Chaque branche de l'œuvre exige l'emploi de vos capacités les plus élevées, la mise en œuvre de tous vos moyens, et, pour la propagation de la vérité, la consécration des plus nobles impulsions de votre âme. Les facultés intellectuelles et spirituelles les plus hautes doivent être engagées au service de cette œuvre de caractère sacré pour qu'elle soit dignement représentée aux yeux de ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Si vous êtes appelé à enseigner dans une branche quelconque de cette œuvre, vous êtes aussi invité à apprendre à l'école du Christ. Si vous acceptez la responsabilité sacrée d'instruire les autres, vous prenez en même temps sur vous celle d'étudier à fond chaque sujet que vous avez à présenter. En soumettant un sujet de la parole de Dieu à votre classe de l'école du sabbat, les raisons de votre foi devront être présentées de manière si claire qu'aucun doute quant à la véracité de ce que vous avancez ne se pose à l'esprit de vos élèves. Vous devrez sonder et comparer diligemment les preuves de la parole de Dieu en rapport avec les messages que le Seigneur envoie à l'Église, afin de savoir ce qu'est la vérité et de diriger dans la voie de la justice ceux qui regardent à vous. Écoutez avec impartialité. Lorsqu'on vous demande d'écouter les raisons d'une doctrine que vous ne comprenez pas, ne condamnez pas celle-ci avant de l'avoir examinée à fond et de savoir, par la parole de Dieu, si elle est soutenable ou non. Si j'en avais l'occasion, j'adresserais aux élèves de toutes les écoles du sabbat un appel pressant, celui de se tourner vers la Bible pour y chercher la vérité et la lumière que Dieu destine à son peuple à cette époque de l'histoire du monde. Vous devez vous efforcer de ne viser à rien de moins qu'à la connaissance complète de chaque point de la vérité pour éviter d'être trouvé au nombre de ceux qui n'auront pas vécu de toute parole qui sort de la bouche de Dieu au jour du jugement. On se doit de considérer soigneusement les conséquences désastreuses résultant de la négligence dans l'étude des Saintes Écritures, étude pourtant digne du meilleur effort mental et des facultés les plus sanctifiées. Lorsqu'une nouvelle vérité est présentée à l'Église, il peut être dangereux de ne pas en faire cas. Si vous refusez d'écouter parce que vous avez des préjugés contre le message ou le messager, vous n'en êtes pas pour autant excusable devant Dieu. Le fait de condamner ce que vous n'avez pas entendu et que vous ne comprenez pas, n'augmentera pas votre sagesse aux yeux de ceux qui sont sincères dans leur recherche de la vérité. Et c'est folie que de vouloir parler avec mépris de ce que le Seigneur a envoyé avec un message de sa part. Si notre jeunesse est désireuse de se préparer au service du Maître, elle doit apprendre à connaître la voix du Seigneur et à vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il lui faut exclure de sa pensée l'idée que toute la vérité a été dévoilée et que le Très-Haut n'a plus d'autre lumière à faire briller aux yeux de son peuple. Si elle demeure sur ses positions, elle court le danger de dédaigner de précieux joyaux dont deviendront possesseurs ceux qui se livrent à une recherche diligente dans cette mine de richesse qu'est la Bible. Étude personnelle. Ceux qui ont été appelés à enseigner ou à tenir un poste de responsabilité ne devraient pas se contenter du résultat de recherches faites par d'autres, mais examiner eux-mêmes toute vérité proposée. S'ils ne forment pas en eux cette habitude, leur vie personnelle et leurs connaissances seront entachées de superficialité. Les opinions de vos collègues peuvent vous être utiles certes, mais vous ne pouvez vous y appuyer sans développer pour vous-même des idées bien arrêtées. Il vous appartient d'examiner les vérités que vous avez été amené à croire jusqu'à ce que vous ayez la certitude qu'elles sont exemptes d'imperfection. Vous perdez beaucoup en ne soumettant pas à la loi et au témoignage tout point de doctrine car, dans ce cas, il ne vous est pas possible de voir ni d'apprécier la volonté du Père. Oh, que notre jeunesse sache apprécier la lumière donnée par Dieu. C'est sa volonté que chacun puisse aller à la source de toute lumière pour être illuminé par l'Esprit, puisque cela sera accordé à toute âme qui cherche humblement la vérité, et alors vous saurez que l'Esprit et la parole sont un. Quelle assurance n'en découle-t-il pas? Vous parlerez avec puissance et proclamerez ce que vous aurez appris de sources sûres, convaincus de n'avoir pas suivi des fables habilement conçues, TSS 58-61. Une promesse d'une lumière toujours plus grande. De nouvelles lumières sur le Saint-Livre seront continuellement révélées à celui qui est en communion avec le Christ. Que personne donc ne conclue qu'il n'y a plus de révélation à attendre des pages sacrées, que tout a été dit. Celui qui cherche la vérité avec diligence et prière verra encore de précieux rayons de lumière en jaillir. Beaucoup de joyaux encore dispersés doivent être rassemblés pour devenir la propriété du peuple du reste. Mais la lumière n'est pas accordée dans le seul but de constituer une force de l'Église. Elle est destinée à être répandue sur ceux qui sont dans les ténèbres et auxquels cette Église doit annoncer les vertus de celui qui l'a appelée des ténèbres à son admirable lumière. Le Christ a dit des siens, « Vous êtes la lumière du monde », et la mission de la lumière est de briller et illuminer les ténèbres. Oh, puissent les moniteurs et les élèves être ce que le Seigneur voulait qu'ils deviennent lorsque, sur le calvaire, il désira, dans sa vision du monde, faire d'eux des fils et des filles de Dieu, héritiers de la couronne immortelle de gloire, TSS 53,54. Nouveau sens à des textes familiers. Dès que celui qui cherche la vérité ouvre la Bible pour y lire les paroles de Dieu avec respect et un désir profond de savoir ce que dit l'Éternel, la lumière et la grâce lui sont accordées, et il peut contempler les merveilles de la loi de Dieu. Ne considérant pas cette dernière comme un joug mais comme l'expression de l'amour de celui qui possède sagesse et compassion dans leur plénitude, il s'empresse de se soumettre aux ordonnances divines. De grandes vérités négligées et dédaignées pendant des siècles seront révélées par l'Esprit de Dieu, et une signification nouvelle jaillira de textes familiers. Chaque page du Livre Saint sera illuminée par ce même esprit de vérité. La Bible n'est pas scellée, c'est un livre ouvert. Les plus précieuses vérités y sont énoncées, les oracles vivants y sont perçus par des oreilles étonnées et provoquent une action salutaire dans la conscience des hommes, TSS 30. S'éloigner des jalons bibliques. Nombreux sont ceux qui connaissent si peu leur Bible qu'ils sont facilement troublés dans leur foi. Ils effacent les anciens repères, et sont par conséquent ballottés çà et là par les opinions erronées et les vents de doctrine. La science, ainsi faussement appelée, érode le fondement du principe chrétien. Et ceux qui jadis étaient dans la foi s'éloignent des jalons bibliques et rompent avec Dieu tout en proclamant être ses enfants, Review and Herald, 29 décembre 1896. La jeunesse fortifiée contre les hérésies. L'enseignement biblique donné dans nos classes de jeunes à l'école du sabbat a une importance infiniment plus grande qu'on ne le suppose habituellement. Ces enfants auront bientôt à faire face aux erreurs et aux fables qui abondent dans le monde chrétien. Instruisez-les avec simplicité certes, mais avec beaucoup de soin. Notre œuvre doit pouvoir soutenir l'épreuve du jugement d'autrui. Il faut rendre la jeunesse actuelle capable, par la grâce du Christ, d'affronter et de vaincre le mal sous les différentes formes qu'il revêt dans la société. Les occasions ne lui manqueront pas d'exercer son influence et d'utiliser toute la connaissance acquise, mais elle devra compter sur la sagesse d'en haut pour résister au courant du mal. Ceux qui sont attachés à des doctrines antiscripturaires sont nombreux. Le monde dans son ensemble les conduit à oublier Dieu et à mépriser ses exigences. La loi divine est foulée aux pieds. Chaque jeune adventiste est responsable devant Dieu des occasions qui lui sont données, notamment de la précieuse lumière qui émane des Écritures, TSS 22. Une barrière contre la tentation. Enrichir les esprits des vérités bibliques doit être pour eux le sujet d'un intérêt réel et sans cesse grandissant. En effet, les précieuses connaissances ainsi communiquées formeront une barrière protectrice autour des âmes qui, dans la tentation, trouveront un appui ferme en Jésus, grâce à la connaissance acquise au sujet de celui qui les a appelés à la gloire et à la sagesse, TSS 12. Aide divine dans la recherche de la vérité. La vérité doit être examinée point par point car il n'y a pas de limitation à la vérité de Dieu. Son étude suscitera un intérêt plus intense, à la fois chez les moniteurs et chez les élèves, pour qu'ils puissent connaître ce que Dieu a dit. Depuis des années le Seigneur nous répète, creusez, remuez. Que les élèves s'adonnent donc à l'étude personnelle de cette vérité afin de connaître les profondeurs de Dieu. Qu'ils ne s'imposent aucune restriction dans ce domaine. Que ce travail se fasse dans l'esprit du Christ. Il faut, pour sonder les Écritures, un esprit profondément humble, un cœur contrit et une fervente recherche de Dieu. Ceux qui se livrent à cette tâche avec de tels sentiments seront aidés par les anges de Dieu, TSS 55,56. Service d'un cœur partagé. Nombre de ceux qui professent être chrétiens ne croient qu'à demi à la parole de Dieu. Ils ne l'étudient pas sérieusement mais perdent un temps précieux à lire des histoires et des romans. Une simple compréhension intellectuelle des Écritures ne suffit pas à exercer une influence sur le genre de vie adopté, car ici c'est le cœur qui dicte les agissements. Lorsque les moniteurs ont enseigné les leçons de la vérité révélée, leur travail ne fait que commencer. En effet, ils ne devraient relâcher leurs efforts que lorsqu'ils ont des preuves que les préceptes du ciel ne sont pas seulement acceptés par l'intelligence mais aussi gravés dans le cœur de leurs auditeurs. TSS 57, 58. Une étude dans un esprit de prière. Nous devrions exercer toutes les puissances de l'esprit dans l'étude des Écritures, et nous donner pour objectif de comprendre, autant que le peuvent des mortels, les profondeurs de Dieu. Cependant, nous ne devons pas oublier que la docilité et la soumission d'un enfant constituent le véritable esprit de celui qui apprend. Les difficultés scripturaires ne peuvent jamais être maîtrisées par les mêmes méthodes qui sont employées pour traiter des problèmes philosophiques. Nul ne devrait s'engager dans l'étude de la Bible avec l'esprit d'indépendance manifesté par un grand nombre de ceux qui entrent dans le domaine de la science, mais avec un esprit de prière et de dépendance envers Dieu et un désir sincère de connaître sa volonté. Nous devons manifester un esprit humble et docile pour arriver à la connaissance du grand Je suis. Autrement, les mauvais anges aveugleront nos esprits, et endurciront nos cœurs à un point tel que la vérité ne fera aucune impression sur nos cœurs. Bien des passages de l'Écriture considérés comme un mystère par des hommes érudits, ou jugés sans importance, sont pleins de réconfort et d'instruction à celui qui a été enseigné à l'école du Christ. De nombreux théologiens n'ont pas une claire compréhension de la parole de Dieu parce qu'ils ferment leurs yeux aux vérités qu'ils ne souhaitent pas mettre en pratique. La compréhension de la vérité biblique dépend beaucoup plus de l'objectif recherché, d'un ardent désir de la justice, que de la puissance de l'esprit amené à la sonder. On ne devrait jamais étudier la Bible sans prier. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre ou nous empêcher d'écarter les vérités difficiles à comprendre. Les anges célestes ont pour fonction de préparer le cœur à la compréhension de la parole de Dieu pour que nous soyons charmés par sa beauté, repris par ses avertissements ou vivifiés et fortifiés par ses promesses. Nous devrions faire nôtre la requête du psalmiste, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Les tentations paraissent souvent irrésistibles parce qu'en négligeant la prière et l'étude de la Bible, celui qui est tenté ne peut se souvenir facilement des promesses de Dieu et faire face à Satan avec les armes de sa parole. Mais les anges veillent sur ceux qui sont disposés à se laisser instruire des choses divines, et dans les moments de grand besoin, ils rappelleront à notre souvenir les vérités mêmes qui nous sont nécessaires, TSS 121, 122. La manière dont Dieu communique la connaissance. Jour après jour, Jésus a acquis la connaissance de la grande bibliothèque de la nature animée et inanimée. Celui qui avait créé toutes choses, qui, par la puissance de sa parole, avait amené à l'existence collines et vallées, fleuves et forêts, était maintenant un enfant de l'humanité, et il étudiait les leçons que ses propres mains avaient écrites dans les feuilles, les fleurs et les arbres. Les paraboles, par lesquelles, au cours de son ministère, Jésus aimait enseigner de grandes vérités, montre à quel point son esprit était ouvert à la douce influence de la nature, et comment, au cours de ses années d'apprentissage, il aimait tirer des enseignements spirituels de son milieu quotidien. Pour Jésus, la parole et les œuvres de Dieu prenaient graduellement tout leur sens alors qu'il réfléchissait et cherchait à saisir la raison des choses, comme tout jeune avide de comprendre. Tout comme pour Jésus, cette même connaissance, à travers les œuvres de la nature et les pages de la Sainte Parole de Dieu, est à la portée de tout enfant. Alors que nous apprenons à mieux connaître notre Père Céleste par sa Sainte Parole, les anges s'approcheront, nos esprits seront fortifiés, notre caractère sera ennobli et purifié, et nous deviendrons plus semblables à notre Sauveur. En contemplant la beauté et la grandeur des œuvres de la nature, nos affections se tournent vers Dieu. Alors que le cœur est dans l'admiration et l'esprit subjugué, l'âme, au contact de celui qui est infini, est vivifiée à travers ses œuvres merveilleuses. La communion avec Dieu, à travers une humble prière, développe et fortifie les facultés morales et mentales, et les puissances spirituelles s'accroissent en fixant les pensées sur les choses spirituelles. Ce qui consacre âme, corps et esprit à Dieu, purifiant leurs pensées en obéissant à sa loi, recevront continuellement une nouvelle provision de puissance physique et mentale. Les désirs du cœur se porteront vers Dieu, et des prières ferventes s'élèveront pour recevoir une perception plus claire afin de discerner le rôle et l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne nous appartient pas de l'utiliser, mais c'est lui qui doit nous utiliser, formant et façonnant chacune de nos facultés. Comment se préparer pour les épreuves à venir ? Les serviteurs du Christ ne doivent préparer aucun discours à présenter lorsqu'ils seront traduits en jugement en raison de leur foi. C'est jour après jour que se fait leur préparation, en conservant dans leur cœur les précieuses vérités de la parole de Dieu, en se nourrissant des enseignements du Christ, et en fortifiant leur foi par la prière. Alors lorsqu'ils seront traduits en jugement, Le Saint-Esprit leur rappellera les vérités mêmes qui sauront toucher les cœurs de ceux qui viendront les entendre. À l'instant où ils en auront besoin, Dieu fera jaillir dans leur mémoire la connaissance acquise par la recherche diligente des Écritures. Mais s'ils négligent de remplir leurs esprits des joyaux de la vérité, s'ils ne se familiarisent pas avec les paroles de Christ, s'ils n'ont jamais goûté la puissance de sa grâce dans l'épreuve, alors ils ne peuvent s'attendre à ce que le Saint-Esprit ramène ses paroles à leur souvenir. Ils doivent servir Dieu chaque jour avec un cœur sans partage et se confier en lui, TSS 105-107. Étude quotidienne de la Bible. L'école du sabbat offre aux parents et aux enfants une occasion précieuse d'étudier la parole de Dieu. Mais pour retirer de l'école tout le bien désirable, parents et enfants doivent prendre le temps d'en étudier les leçons de manière à avoir une parfaite connaissance des faits présentés et d'en retirer tous les enseignements qui s'en dégagent. Nous devons surtout faire comprendre à la jeunesse qu'elle doit chercher à bien saisir le sens des textes bibliques sous considération, témoignage pour l'Église, vol. 2, page 651. Parents, consacrez chaque jour avec vos enfants un moment à l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Renoncez, si cela est nécessaire, à l'heure des visites plutôt qu'à l'heure réservée à l'étude des précieuses leçons de l'histoire sainte. Les parents, aussi bien que les enfants, recevront du bien de cette étude. Qu'on apprenne par cœur les passages bibliques les plus importants de la leçon, non comme un devoir, mais comme un privilège. Au commencement, la mémoire sera peut-être défectueuse, mais elle se fortifiera si bien par l'exercice qu'après quelque temps, on aura du plaisir à enrichir ce trésor de précieuses paroles de vérité. Cette habitude sera d'un grand secours pour la croissance spirituelle, id. Page 651-652. Si le temps perdu en futilité ou en bavardage ou encore à satisfaire la gourmandise était consacré avec un égal intérêt à l'étude de la Bible, quel encouragement ce serait pour nos écoles du sabbat. Mais quand le désir d'habiller leurs enfants à la mode est plus grand chez les parents que celui d'orner de jeunes esprits des vérités de la parole de Dieu, ces derniers accorderont bientôt une importance plus grande à leur toilette et à l'allure qu'ils se donnent qu'aux choses concernant le salut, TSS 10,11. Soyez systématique dans l'étude des Écritures en famille. Négligez tout ce qui est temporaire. Renoncez à tous travaux de couture inutiles et à toute provision de table qui n'est pas nécessaire, mais ne manquez pas de nourrir votre âme du pain de vie. Les bienfaits d'une heure ou même d'une demi-heure passée chaque jour, en famille, à étudier joyeusement la parole de Dieu, sont inestimables. Que la Bible soit son propre interprète. Rappelez tout ce qui se rapporte à un même sujet en divers temps et en diverses circonstances. N'abandonnez pas votre classe de famille à cause de visiteurs. S'ils viennent pendant votre étude, invitez-les à y prendre part. Qu'ils sachent que vous considérez l'acquisition de la connaissance de la parole de Dieu comme plus importante que celle des biens ou des plaisirs du monde, témoignage pour l'Église, volume 2, page 652. Gravez la leçon dans la mémoire. Le sabbat offre également à notre intelligence des ouvertures incomparables. Étudions la leçon de l'école du sabbat, non pas d'un rapide coup d'œil le sabbat matin, mais avec soin dans l'après-midi du sabbat précédent, pour pouvoir y revenir en l'illustrant chaque jour de la semaine. Ainsi cette leçon se gravera dans notre mémoire et sa richesse ne sera jamais complètement perdue. Éducation, page 251,252. Notre nourriture spirituelle de chaque jour. Nous avons besoin de comprendre ces paroles du Christ. La chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La sainte parole doit être acceptée et intégrée dans la vie pratique. La vie spirituelle consiste à faire de Christ la lumière et la vie du temple de l'âme, tout comme le sang est la vie du corps. Tous les étudiants de la parole sont représentés comme ceux qui mangent la parole, qui se nourrissent de Christ. Tout comme les besoins du corps doivent être comblés chaque jour, ainsi la parole de Dieu doit être étudiée quotidiennement, ingérée, digérée et mise en pratique. C'est la nourriture qui maintient la vie et la santé de l'âme. La négliger équivaut à affamer l'âme. Elle déclare heureux celui qui médite jour et nuit les vérités qui y sont contenues, et nous sommes tous appelés à en faire nos délices. La relation entre la parole et le croyant est d'une importance capitale. S'approprier la parole pour nos besoins spirituels, c'est manger les feuilles de l'arbre de vie qui servent à la guérison des nations. Étudiez et mettez en pratique la parole, car c'est votre source de vie. Lettre 4 d'Hélène G. White, 1902. Coopération au foyer. S'il est essentiel que celui qui enseigne fasse des efforts avisés et persévérants, tout le travail en faveur des âmes ne doit cependant pas incomber à l'école du sabbat et à l'église, mais sa base et son appui doivent se trouver au sein de la famille. Les parents ont une responsabilité sacrée à assumer dans la crainte de Dieu, celle de veiller sur l'âme de leurs enfants comme devant en rendre compte. L'aspect missionnaire de la vie au foyer a été étrangement négligé. Les parents qui ont eu les plus sérieux motifs de manifester à l'égard du salut de leurs enfants une réelle sollicitude semblable à celle du Christ, ont été indifférents envers leurs responsabilités, et ont traité cette question à la légère, abandonnant volontiers à l'école du sabbat et à l'église le soin d'exercer sur ceux-ci une influence qu'ils ne se souciaient pas de posséder. Mais chaque instrument utilisé par Dieu a son œuvre à accomplir et les parents qui négligeant leurs devoirs et leurs responsabilités seront pesés dans la balance et trouvés trop légers. Les instructions du Christ à Israël, quand ce dernier suivait au désert la colonne de feu, définissent clairement la tâche des parents. Elles sont pour nous un avertissement et un bien. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Dans tout le travail de leurs mains, les Israélites devaient se rappeler le commandement du Seigneur. Ils devaient être liés sur leurs mains non pas d'une manière littérale, mais dans le sens d'exercer une influence sur toutes les activités de leur vie, être entre leurs yeux comme des frontaux. Leurs esprits devaient se pénétrer de la vérité des commandements de Dieu, et être gouvernés par leurs principes. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Enseignez la modestie et l'humilité. Les préceptes du Fils de Dieu à Moïse pour l'instruction des enfants d'Israël demeurent essentiels, et ils devraient être aussi fidèlement suivis par les parents d'aujourd'hui qu'ils le furent par ceux de l'ancien peuple de Dieu. La religion doit imprégner chaque acte de la vie familiale si nous désirons voir les résultats que Dieu mentionne comme autant de fruits de l'obéissance. Ce qui distingue la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'orgueil, la suffisance et l'effronterie, fléaux de notre siècle. Quand je vois répandu partout cet esprit dénué d'amour, et, d'autre part, parents et moniteurs cherchant à étaler les capacités et les progrès de leurs enfants ou de leurs élèves, j'en suis profondément attristé, car c'est exactement le contraire de ce qui devrait être fait. Lorsque parents et moniteurs s'inspirent de la Bible et de ses principes pour penser et agir, ils n'ont pas à craindre de se tromper ni de suivre des sentiers détournés. Tant à la maison qu'à l'école du sabbat, de précieuses leçons de modestie et d'humilité doivent être enseignées aux enfants. N'ont-ils pas à apprendre quelles sont les exigences sacrées de la loi de Dieu et quelle est leur responsabilité devant l'Éternel? Les leçons qui leur sont présentées devraient être de nature à les préparer à un rôle utile dans cette vie et à occuper une place dans le royaume éternel à venir. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ces paroles définissent clairement le devoir des parents et celui des moniteurs. S'ils suivent ces commandements, ils ne manqueront pas d'en voir les résultats bénis. Résultat de l'échec des parents. Combien différente eût été l'histoire d'Israël, cette nation si hautement favorisée de la part du Seigneur, Si les instructions données du haut de la colonne de nuée par le Fils du Dieu vivant avaient été mises en pratique. Mais les Israélites ne les suivirent pas fidèlement. Ils ne les enseignèrent pas à leurs enfants, et les funestes conséquences qui découlèrent de cette désobéissance nous sont décrites par l'histoire de ce peuple finalement rejeté. Les Juifs abandonnèrent la sagesse de Dieu au point de s'écrier « Crucifie, crucifie-le !» lorsque Jésus, le Sauveur du monde, apparut chez les siens. La tradition humaine était en plus grand honneur chez eux que les commandements divins. Des pratiques mensongères et des inventions humaines avaient pris la place du pur enseignement de Dieu. Ce qui aurait dû être une partie de leur être était considéré sans conséquence et de peu de valeur. Lorsque le Christ vint dans ce monde pour démontrer ce qu'est la religion véritable et exalter les principes qui devraient diriger les cœurs et inspirer les actions des hommes, le mensonge s'était emparé à tel point de ceux qui avaient eu en partage de si grandes lumières, qu'ils ne reçurent pas la lumière et n'eurent aucun désir d'abandonner la tradition pour la vérité. Ils rejetèrent le divin maître, crucifièrent le Seigneur de gloire pour préserver leurs coutumes et le fatras de leurs inventions purement humaines. Le même esprit se manifeste dans le monde aujourd'hui. Les hommes ont de l'aversion pour l'étude de la vérité, craignant de compromettre leur tradition et d'accepter un nouvel état de choses. L'humanité est constamment en danger de se tromper, et les hommes sont naturellement enclins à exalter ce qui leur est propre, leurs idées, conceptions et connaissances. Ce qui est divin et éternel n'est ni discerné ni apprécié. Le message du Christ rejeté. Pour ceux qui vivaient sans préjugés, les paroles du Christ furent comme la lumière du ciel. Jamais homme, disait-il, n'a parlé comme cet homme. Tandis que le Maître leur présentait les réalités émouvantes de la vie éternelle, les choses de ce monde périssable disparaissaient à leurs yeux. Aussi, avec quel empressement ceux qui avaient prié pour que Dieu leur donnât la lumière, reçurent-ils la vérité cependant que les orgueilleux et les propres justes refusaient d'accepter le divin message, TSS 35-39. Les parents en tant qu'éducateurs. Le foyer devrait devenir une école de formation plutôt qu'un lieu de corvée monotone. Les soirées devraient être affectionnées comme des moments privilégiés consacrés à instruire les enfants dans la voie de la justice. Mais comme il est triste de voir que beaucoup d'enfants sont négligés. Ils ne sont pas instruits dans la compréhension de la parole de Dieu au foyer, et ils ne sont pas formés à aimer la justice et exercer leur jugement. Ils devraient être instruits avec patience afin qu'ils puissent comprendre les lois qui les gouvernent et connaître les sources de leurs actions. Ils doivent être amenés à être en harmonie avec les lois célestes pour aimer la vérité telle qu'elle est en Jésus. C'est ainsi qu'ils pourront être aptes à joindre la société des anges et se tenir en présence de leur adorable Rédempteur. On devrait inculquer dans chaque être humain des espoirs et des aspirations qui seront nobles pour que la jeunesse puisse voir la beauté dans la voie de la sainteté. Dans tous les cas, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des mesures drastiques en traitant avec les jeunes afin qu'ils puissent être formés, cultivés et perfectionnés pour être utiles dans la vie. Combien peu apprécient la valeur des talents que Dieu leur a confiés. Combien peu de parents et de moniteurs réalisent que l'esprit et le cœur n'atteignent leur plein potentiel qu'en ayant une relation vivante avec la source de toute sagesse, puissance et sainteté. La vérité est infinie, et celui dont l'esprit est éclairé et conduit par l'Esprit de Dieu renouvellera ses forces, et la lumière ira grandissant sur son sentier jusqu'au grand jour. Vers la terre ou vers le ciel. Mais tout en étant capables d'avancer dans la connaissance et la vérité, ne perdons pas de vue le fait que nous pouvons tout aussi bien reculer qu'aller de l'avant. Nous pouvons nous diriger vers la terre tout aussi bien que vers le ciel. De nombreuses âmes hésitent entre la direction du ciel et la voie de l'enfer tandis que des influences subtiles et trompeuses les éloignent de Dieu et des choses célestes. Il est important de veiller sur chaque jeune depuis ses toutes premières années jusqu'à l'âge adulte. Ceux qui connaissent le danger du mal, et l'amour et l'intérêt que Dieu porte envers chaque créature, devraient s'occuper spécialement de veiller sur les âmes comme s'ils devaient en rendre compte. Les parents devraient commander à leur maison après eux, tout comme l'a fait Abraham, de marcher dans les voies de l'Éternel. Si l'on n'agit pas ainsi, Satan se charge avec joie de leur tâche et instruit l'enfant comme il lui plaît. Et malheureusement, cette tâche est souvent remise entre ses mains. Que les parents accomplissent leurs devoirs envers ceux qui leur sont confiés et façonnent leur caractère selon le divin modèle. Si les parents, avec une foi vivante et une entière confiance en Dieu, font la part qui leur revient, Dieu fera sa part, et des milliers d'enfants qui vivent maintenant sans Dieu et sans espoir dans ce monde seront ajoutés à l'Église. Un fardeau pour la conversion de la jeunesse. Lorsque les cœurs des parents et des moniteurs auront un grand fardeau pour la conversion de nos jeunes, ils déploieront des efforts constants dans le but de former leur caractère et d'orienter leurs goûts et leurs désirs dans la voie céleste. Il est possible pour chaque âme d'être édifiée dans les vertus profondes et atteindre la hauteur, la profondeur et la largeur de la connaissance des choses spirituelles afin d'être apte pour la vie éternelle. Lorsque les parents, ayant en vue la gloire de Dieu, feront les premiers pas en adoptant des habitudes et des pratiques aussi simples et naturelles que possible dans leur alimentation, leur habillement et leur style de vie, l'ordre régnera dans le foyer et les enfants ne seront pas négligés, mais on consacrera du temps à leur instruction et leur développement. Les enfants devraient être entourés des meilleures influences et fréquentations. Les parents qui entreprennent cette tâche dans la crainte et l'amour de Dieu veilleront sur chacune de leurs paroles pour ne rien entendre qui les attristerait si leurs propos venaient à être répétés par leurs enfants. Ils chercheront à suppléer à la faiblesse, à l'ignorance et au défaut de ceux-ci par une instruction morale élevée qui leur permette de croître en force et en pureté, bien enracinés dans des habitudes leur apportant santé et bonheur. Une telle éducation leur assurera le genre de connaissances qui développera en eux un caractère fort et équilibré. Négligence remplie de dangers. Si on laisse l'éducation de nos jeunes entre leurs mains, toutes les occasions seront devant eux. Provenant de sources diverses, la connaissance du mal sera introduite dans l'esprit, et il se peut qu'elle ne puisse jamais être complètement effacée. Lorsque les parents négligeant leur devoir de poser le fondement du caractère de leurs enfants par une formation solidement établie sur les meilleurs principes, l'ennemi de Dieu et des hommes comblera cette négligence et les jeunes seront indifférents à la vertu et à la vérité. Le foyer devrait être l'endroit le plus agréable au monde. Comment peut-on comparer ce qui est extérieur et artificiel avec ce qui est vrai et naturel ? Le Seigneur a donné aux enfants des facultés qui nécessitent la formation la plus attentive de la part des parents et des moniteurs. Ceux à qui Dieu a confié la responsabilité de discipliner les jeunes devraient être en mesure de coopérer avec lui pour développer chez eux les précieux dons du cœur et de l'esprit afin qu'ils puissent acquérir une connaissance qui augmentera leur force et constituera une acquisition qui pourra être emportée dans le futur, la vie immortelle. Une œuvre de la plus haute importance. Former et façonner le caractère des enfants et des jeunes est une œuvre de la plus haute importance, et dans cette tâche il est essentiel que l'esprit perçoive l'amour sans égal du Christ, que ses charmes incomparables puissent éclipser les attraits du monde. Les jeunes ne doivent pas voir simplement une théorie, quelle qu'en soit sa logique, mais le caractère aimant et la gloire de Christ. Ils doivent être conduits à contempler les richesses du monde éternel jusqu'à ce qu'ils soient encouragés, vivifiés et gagnés. L'amour de Jésus doit être le mobile de tout effort. Il invite, il presse, il charme, TSS 101-105. Les parents dans l'école du sabbat. L'école du sabbat offre de précieuses possibilités et privilèges pour la jeunesse. Les parents pourraient mieux évaluer ces avantages et montrer leur appréciation à leurs enfants. Si, dans la classe, ils ne manifestent eux-mêmes aucun intérêt particulier, ils ne peuvent s'attendre à ce que leurs enfants en témoignent davantage. Dans l'école du sabbat, les parents peuvent être des apprenants au même niveau que leurs enfants. Tous devraient chercher à acquérir une bonne connaissance des Écritures. Les autres livres n'ont qu'une importance secondaire par rapport à la parole de Dieu. Le Christ a dit : Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Chacun d'entre nous a comme responsabilité d'étudier les prophéties d'une manière plus approfondie que maintenant et d'avoir une connaissance plus profonde des enseignements pratiques du Christ. Si nous lisons simplement les Écritures sans montrer un intérêt particulier, nous ne pouvons pas avoir l'intelligence des vérités qui y sont contenues. Étudiez la leçon chaque jour. Les parents devraient sonder les Écritures avec leurs enfants. Ils ont comme tâche de se familiariser avec ces enseignements. Ainsi, ils peuvent aider leurs enfants à les apprendre. Chaque jour, un temps devrait être réservé à l'étude des leçons, pas seulement pour apprendre à répéter les paroles de façon mécanique sans que l'esprit en comprenne le sens, mais pour approfondir et bien comprendre ce qui doit être souligné dans la leçon. Dans de très nombreux cas, l'indifférence des enfants est due aux parents. Ils sont eux-mêmes indifférents et les enfants adoptent la même attitude. Si les parents montrent qu'ils attachent de l'importance à l'école du sabbat, en lui accordant le respect et la place qui lui est due, les enfants vont généralement copier leur exemple. Enseigner l'observation du sabbat. Les parents devraient mettre parfaitement au clair avec leur famille que les heures sacrées du sabbat doivent être passées à la gloire de Dieu. Ils devraient se lever avec le soleil, et avoir suffisamment de temps pour se préparer pour l'école du sabbat sans avoir à se presser et peut-être perdre la maîtrise d'eux-mêmes. Si les préparatifs ont été faits le jour précédent, il y aura suffisamment de temps pour revoir la leçon étudiée pendant la semaine. Et les parents comme les enfants peuvent aller à l'école avec l'assurance que les leçons ont été bien apprises. Sympathie de Christ envers les enfants. Jésus avait un grand intérêt pour les enfants. Il n'est pas venu dans notre monde en tant qu'adulte. S'il avait fait cela, les enfants n'auraient pas pu suivre son exemple. Christ a été enfant. Il a vécu l'expérience d'un enfant. Il a éprouvé les déceptions et les épreuves que les enfants vivent. Il a connu les tentations des enfants et des jeunes. Mais Christ, dans son enfance et sa jeunesse, fut un exemple pour tous les enfants et tous les jeunes. Même enfant, ses mains accomplirent des actes utiles. Dans sa jeunesse, il a travaillé comme charpentier avec son père et fut soumis à ses parents, donnant ainsi dans sa vie une leçon pour tous les enfants et les jeunes. Si Christ n'avait jamais été lui-même enfant, les jeunes pourraient maintenant penser qu'il ne peut sympathiser avec eux. Mais il leur a donné l'exemple, et tous peuvent trouver en Jésus celui qui peut porter toutes leurs peines et leurs déceptions, et un ami prêt à les aider. Jésus aime les petits-enfants. Quand les mères amenèrent leurs enfants à Jésus, les disciples essayèrent de les repousser. Mais Jésus les reprit et dit : « Laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il les rassembla ensuite dans ses bras aimants et les bénit. Ses parents et moniteurs qui n'ont ni amour ni patience avec les enfants sont à plaindre, car ils n'ont pas l'esprit de Christ. Ceux qui cherchent à rassembler les enfants dans l'école du sabbat accomplissent un bon travail, celui-là même que le maître aimerait qu'ils fassent. Même les esprits en développement des petits-enfants peuvent comprendre beaucoup de choses en rapport avec les enseignements de Christ, et on peut leur enseigner à l'aimer d'une affection passionnée. Parents et moniteurs devraient semer au bord de toutes les eaux, et s'ils sont fidèles, ils pourront avant longtemps récolter une moisson d'âmes. Lorsqu'ils verront les âmes pour lesquelles ils ont travaillé autour du grand trône blanc, avec des couronnes, des robes blanches et des harpes d'or, ils sentiront à ce moment que leurs efforts n'ont pas été faits en vain. Les paroles du Maître, « C'est bien, bon et fidèle serviteur » résonneront à leurs oreilles comme une douce musique, Signs of the Times, 23 juin 1881. Trouvez du temps pour l'étude de la leçon. Il y a bien des enfants qui, pour s'excuser de ne pas apprendre les leçons de l'école du sabbat, prétendent manquer de temps. Mais peu d'entre eux auraient de la difficulté à trouver du temps s'ils étaient vraiment intéressés. Certains consacrent du temps à s'amuser et à flâner. D'autres à confectionner des toilettes pour satisfaire leur vanité et leur orgueil. Les précieuses heures ainsi gaspillées appartiennent à Dieu à qui nous devrons rendre compte. Les heures passées à ces décorations inutiles ou ces amusements, et en conversation frivole seront amenées en jugement comme toute autre œuvre, TSS 8. Que les parents aident les enfants. Les parents devraient sentir que leur devoir sacré est d'instruire leurs enfants au sujet des lois et ordonnances de Dieu aussi bien que des prophéties. Ils devraient enseigner leurs enfants à la maison et porter eux-mêmes un intérêt aux leçons de l'école du sabbat. En étudiant avec les enfants, ils montrent que les vérités enseignées sont importantes et développent en eux le goût de connaître la Bible, TSS 111. Que les parents fassent leur part, non seulement en aidant les enfants dans leur étude, mais en apprenant eux-mêmes celle-ci. La Bible est notre manuel. Parents, moniteurs et élèves ont besoin de mieux connaître les précieuses vérités contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament. TSS 14. Plus importante que l'école publique. Les parents devraient sentir qu'il est de leur devoir de veiller à ce que les leçons de l'école du sabbat soient aussi bien apprises que celles de l'école publique, et même plus parfaitement. Si l'on estime cet intérêt déplacé, il serait préférable que les enfants restent à la maison, l'école du sabbat ne pouvant dans ce cas leur être en bénédiction. Parents et enfants devraient collaborer étroitement avec les directeurs et les moniteurs, de telle sorte que ces derniers sachent à quel point on apprécie leurs efforts. On doit pouvoir s'attendre à ce que les parents s'intéressent tout particulièrement à l'instruction religieuse de leurs enfants, veillant à ce qu'ils parviennent à une connaissance approfondie des Écritures. TSS 8. Une étude diligente richement récompensée. La ferme assiduité de ces étudiants hébreux, Daniel et ses compagnons, formés par Dieu a été richement récompensée. Tandis qu'ils faisaient des efforts diligents pour accéder à la connaissance, le Seigneur leur donnait la sagesse céleste. La connaissance ainsi obtenue leur fut d'un grand service lorsqu'ils se trouvèrent dans des situations difficiles. Le Dieu du ciel ne compensera pas les déficiences qui résultent d'une indolence mentale et spirituelle. Lorsque les agents humains exercent leurs facultés pour acquérir des connaissances, pour devenir des hommes d'une réflexion profonde. Lorsque, en qualité de plus grand témoin pour Dieu et la vérité, ils auront gagné dans le domaine de l'étude, des doctrines essentielles concernant le salut des âmes, pour que la gloire puisse être donnée au Dieu du ciel en tant que souverain, alors même les juges et les rois seront amenés à reconnaître, dans les palais de justice, les parlements et les gouvernements, que le Dieu qui a fait les cieux et la terre est le seul vrai Dieu vivant. Qu'il est l'auteur du christianisme, l'auteur de toute vérité, celui qui a institué le septième jour en tant que sabbat lorsque les fondations du monde furent posées, et que les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, Fundamentals of Christian Education, fait page 374, 375.